Accent d'Europe, Juliette Rangeval.
Bonjour. Abricots, cerises, les fruits de l'été seront rares cette année et chers. Après l'épisode de gel de la semaine dernière qui a particulièrement touché les vergers et les vignobles en France, d'autant que l'Italie et l'Espagne, les deux plus gros producteurs de l'Union européenne, ont aussi connu des gelées. Selon les premiers chiffres des syndicats agricoles, un tiers au moins de la production viticole française sera perdue, ce qui représente à peu près 2 milliards d'euros de chiffre d'affaires en moins. Et les producteurs de fruits, eux, restent avec une production ravagée à 80%. Reportage dans la vallée du Rhône de Carlotta Morteo.
Bah alors là, on n'était plus au stade de la fleur, on était au stade du petit fruit, donc c'est simple, on prend un fruit, hein, voilà, au hasard celui-ci, on l'ouvre en deux, et on voit qu'à l'intérieur, il est... tout marron, tout flétri même, on dirait que c'est tout pourri. Hein. Et là, dans quelques heures, quelques jours, il va tomber par terre. Voilà.
Le visage fatigué, les nerfs à vif, Aurélien Esprit, producteur d'abricots et de pêche à Pont de l'Isère, constate les dégâts.
Une parcelle comme ça nous permet de produire à peu près 20 tonnes par hectare. Donc rien que sur cette parcelle qui fait à peu près 3 hectares, j'aurais dû sortir à peu près 60 tonnes d'abricots. Alors vous voyez, 60 tonnes d'abricots à peu près 1 euro, 1,50 € qu'on le commercialise, ça fait 60, 90 000 euros de chiffre d'affaires qui ne vont absolument pas rentrer. Voilà. Alors que là, j'ai eu des frais pour tailler ces arbres. J'ai eu des charges de personnel, j'ai eu des frais d'engrais, des frais d'arrosage déjà. Et on le voit bien, hein, on peut regarder encore ici. Alors peut-être celui-ci qui est bien haut va être sauvé. Mais non, même pas, même il pas est tout noir.
Donc des abricotiers, des cerisiers, les pêches.
Tout a morflé. Et ça a été vraiment pas local, quoi. Ça a été sur tout le département, même sur d'autres régions françaises. Moi, je pense vraiment à tous mes collègues agriculteurs qui, pour certains, comme moi, vont se prendre des années blanches, sont à leur troisième, quatrième année blanche, quoi.
Autour de Valence, des vergers à perte de vue.
Il y a toujours du vent comme ça, ici ?
Oui.
Gilles Valette, cinquième génération de producteurs de fruits, nous fait faire le tour de ces 22 hectares gelés.
Là, on est sous le choc. Après, il faut digérer et voir comment on va faire.
Tous les fruits sont touchés.
Les abricotiers, ça a l'air d'être très très sérieux. Pas loin de 100%. Les pommes, ça sera peut-être à 80 ou 90%. Voilà. Là, j'ai des voisins, c'est pareil. Vous pouvez regarder de partout. C'est fini, c'est fini. Hein.
Mais du coup, est-ce qu'il faut qu'on s'attende à ce qu'il y ait de l'import d'abricots du coup cette année? Ça va être ça, là?
Peut-être. La vague de gel était sur toute l'Europe. Les autres pays ont gelé aussi. Hein. Les Suisses, les Allemands, on sait que l'Italie du Nord a gelé aussi. Tout nous. Même sur l'Espagne, il y a des endroits, je pense, qu'ils ont morflé aussi. J'ai des collègues espagnols qui font 30 000 tonnes de fruits. L'autre fois, ils en avaient plus que 20, plus que 10. Ça veut dire qu'ils sont comme nous. Et ils vont pas compenser, et ils vont pas envoyer des fruits.
Quand on importe, on va peut-être même emporter de plus loin, quoi.
Ouais, si on trouve. Ouais. Ça risque d'être un peu compliqué.
Quand ce n'est pas le gel, c'est la grêle ou la sécheresse. Depuis 4 ans, les aléas s'enchaînent et les charges s'accumulent. En déplacement dans la région ce week-end, le Premier ministre Jean Castex a promis des aides exceptionnelles. Mais Gilles Valette attend de voir pour y croire.
Bah, y a toujours eu des effets d'annonce, des grands effets d'annonce. Et puis après, quand on arrive vraiment à l'aide, qu'il faut remplir les dossiers et puis toucher les aides, c'est autre chose.
Pour tenter de sauver leur récolte, les arboriculteurs et viticulteurs autour du Rhône avaient pourtant investi. Bougies, feu, aspersion d'eau, éoliennes et même envoi d'hélicoptères pour brasser l'air.
Généralement ici, c'est un coin où mon père a jamais gelé de toute sa carrière. Mon grand-père a gelé une fois, alors que du coup on avait mis tout ravin plus bougie, et là tout a gelé.
La soufflerie d'air chaud que Joséphine Martin a achetée cette année pour plus de 8000 euros n'a réussi à sauver que 2 hectares de kiwis sur une vingtaine d'hectares de fruits.
Si encore il y avait eu que nous, mais en fait c'est pas le cas, on voit que ça a touché de partout, toutes les cultures, et ça c'est assez extraordinaire quoi. On se dit qu'il y a vraiment un souci, un changement climatique qui fait qu'on a des épisodes violents. La semaine d'avant, il faisait chaud. J'étais là, on taillait le Monilia, j'étais en débardeur presque à prendre des coups de soleil. Et deux jours après, tu as ces conditions-là, tu te dis mais... En plus, quand on est arrivé, on a pris de la grêle, alors qu'on a aussi un canon anti-grêle. Tu te dis bah, j'essaye de lutter, et malgré le fait de lutter, on n'y arrive pas quand même. Plus ça va aller, au plus on va avoir des épisodes de grêle, au plus on va avoir des épisodes de gel. Donc c'est sûr que pour l'assurance, c'est aussi compliqué.
Aucun des producteurs rencontrés n'est assuré contre le gel. trop cher. Les syndicats demandent depuis des années une réforme de l'assurance récolte. Visiblement, c'est compliqué. Il faudrait surtout faire beaucoup plus de recherches agronomiques sur les variétés pour trouver des fruitiers hybrides plus résistants aux changements climatiques brutaux. Joséphine Martin envisage d'arracher des arbres cette année.
Est-ce que finalement, on continue aussi à faire de l'abricot, sachant que des épisodes à moins 0,5, on sait qu'on en a souvent, on investit de l'argent dans la lutte, que des fois ça suffit pas. On sait pas trop à qui on va acheter des abricots pour les revendre, quoi.
Ce qui est sûr, c'est que cet été, les fruits seront plus rares sur les étals, donc plus chers, un peu partout en Europe.
Oh, barman, barman, please serve me a British pint of beer. I have supped my way right round the world and nothing can compare.
Les restaurants, les pubs rouvrent leurs portes au Royaume-Uni, la vie reprend doucement, même si cela correspond aussi dans le pays à une période de deuil national. Après le décès de l'époux de la reine, le prince Philippe, duc d'Édimbourg, avec l'accent Duke of Edinburgh, bilan d'une semaine de tournée dans les pubs, signé Marie Billon à Londres.
Boris Johnson, le Premier ministre, a dû renoncer à sa pinte du lundi par respect pour le duc d'Édimbourg. Mais tout le monde n'a pas eu à faire ce sacrifice. Il y a une dizaine de pubs dans le Royaume-Uni qui portent le nom Duke of Edinburgh. Certains ont pu rouvrir dès le début de la semaine car ils sont dotés de terrasses. C'est le cas d'un pub éponyme près de Windsor, là où le prince consort est décédé et où il sera enterré. Ce petit pub de campagne compte bien lever un verre au duc et à la santé de son épouse, la reine. Même s'il ne sera pas possible de diffuser les funérailles sur ses écrans de télévision à l'intérieur, puisqu'il reste interdit de servir des clients en salle jusqu'au 17 mai. Heureusement, il fera plus de 10 degrés le jour de la cérémonie. Ce n'était pas le cas lundi. Il y a même eu de gros flocons le matin même.
Cheers everybody, we're back in.
Santé tout le monde, on est de retour. C'est super d'être là à nouveau, de pouvoir voir des amis et de lever le coude ensemble. J'ai un chef-cou, un bonnet, des gants. Je suis paré pour le froid.
Robert avait l'habitude de venir au Surrey Docks, un pub de quartier dans le sud-est de Londres, tous les matins avant la pandémie pour retrouver ses amis. Tant pis s'il est cantonné en terrasse dans le froid, il reprend sa routine. Même si cela passe par plusieurs rappels à l'ordre du manager, John, car Robert est censé rester assis. C'est le seul moyen de respecter les distanciations sociales. John, justement, explique les nouvelles règles à un client qui arrive.
Il faut donner vos coordonnées pour qu'on puisse tracer les contacts de toutes les personnes de la table. Le seul moment où vous pouvez aller à l'intérieur, c'est pour aller aux toilettes. Mais il faut suivre la route à sens unique.
La règle principale, c'est qu'on peut à nouveau voir ses amis et de la famille tant que cela ne représente pas un groupe de plus de 6 personnes. Et à l'autre bout de la terrasse, 3 jeunes viennent de s'asseoir.
J'ai commandé un petit déjeuner anglais traditionnel et je suis très pressée. Ce qui m'a le plus manqué, c'est de m'asseoir avec mes amis. Mais je compte bien faire une tournée des pubs aujourd'hui. Ça n'a pas l'air très responsable comme ça, mais je crois qu'il faut le faire.
La journée se continuera donc en centre-ville, le cœur de Londres qui reprend vie, comme ici, le quartier de Covent Garden.
On profite de l'ouverture des magasins, mais on est d'abord allé manger parce que c'est ce qui nous a manqué le plus. Covent Garden est quand même beaucoup moins rempli que d'habitude, donc tant mieux. Il y a plein de cafés et de petits magasins indépendants à côté des grandes enseignes ici. D'ailleurs, ces petites boutiques adhèrent plus aux règles de distanciation que les autres, et je préfère ça.
Il y a des files d'attente devant certains magasins. On voit beaucoup de monde avec des sacs, petits et grands à la main, déambuler et puis se poser en terrasse.
On va faire les boutiques parce qu'on a besoin de vêtements, quoi.
Non, mais en vrai, ça a pris 3 heures pour trouver de la nourriture, donc c'était un peu galère.
Pourquoi ? Parce que tout est rempli, il n'y a plus de place partout.
Mais ça fait du bien d'être avec les copains, ça fait longtemps. Mais c'est vrai. Ça fait longtemps, c'est agréable de pouvoir au moins ressortir, alors qu'en France c'est beaucoup plus compliqué en ce moment.
Et justement, pas très loin de là, un restaurant français, le Beaujolais, a rouvert ses portes, ou plutôt sa terrasse, comme l'explique Pascal, le sommelier, et Samantha, la manager.
Nous avons donc une terrasse qui fait à peu près 10 mètres, sur 1,5 mètre. Donc nous avons la capacité pour 4 tables, plus le bâtiment qui est à côté peut nous laisser à environ une autre dizaine de mètres.
La coiffeuse à côté de chez nous également, qui, quand elle ferme le soir, nous autorise à mettre 2 tables près de chez elle.
Donc nous comptons avec un peu de chance, une terrasse pleine pourra faire entre 18 et 20 personnes.
On n'a pas forcément de haut vent pour prévenir en cas de pluie, donc forcément c'est limité, mais on ouvre pour retrouver nos clients, pour le côté social et non pas pour le chiffre d'affaires, parce que malheureusement, ce ne sera pas le meilleur chiffre d'affaires de l'année.
60% des bars et restaurants n'ont pas de terrasse extérieure. Certains ont une terrasse, mais elle est trop petite pour être rentable à elle toute seule. C'est pour cette raison que les deux tiers des pubs n'ont pas encore pu rouvrir leurs portes.
Le nouveau ministre de la Santé en Autriche s'appelle Wolfgang Mückstein. Il détient désormais le poste clé en pleine pandémie. Le précédent ministre, Rudolf Einschauber, a démissionné cette semaine pour cause de burn-out. Cette décision a lancé une discussion dans le pays sur le tabou de la santé mentale, Céline Béal.
Vielen, vielen Dank dafür. Und Ihnen sage ich auf Wiedersehen.
Une conférence de presse qui se termine par un au revoir ému, des journalistes qui applaudissent. La scène n'est pas habituelle en Autriche, surtout lorsqu'un ministre annonce sa démission. Rudolf Einschauber, jusque-là ministre des Affaires sociales et de la Santé, était-il un bon ministre? La question divise, mais presque tous s'accordent depuis pour saluer sa franchise. Personne ne doit avoir honte d'être malade, avance-t-il pour expliquer sa décision. Rudolf Einschauber se dit surmené, fatigué. Il ne cache pas qu'il a souffert d'un burn-out, un épuisement professionnel, il y a 9 ans. Ces deux derniers mois, il a dû être arrêté à nouveau, 2 fois une semaine. Problème cardiovasculaire. On a le droit d'être malade, même si on est ministre, tient-il à ajouter. Mais c'est impossible quand on est ministre de la Santé en pleine pandémie. Là, il faut pouvoir se donner à 100%. En décidant de démissionner, le jeune sexagénaire a aussi fait un aveu très inhabituel dans les cercles du pouvoir, mais pas seulement. Il ne veut pas se tuer au travail. Un pas dans le sens de la levée du tabou qui entoure la santé mentale au travail. C'est peut-être aussi cela, être un bon ministre de la Santé.
Nous retrouvons la une de Courrier International avec Virginie Lepetit en une du magazine cette semaine. Virginie, le monde qui se prend de passion pour les échecs. Et puis dans les pages Europe du magazine, vous nous emmenez dans le Bade-Württemberg sur les traces d'un reporter de l'édition dominicale du Frankfurter Allgemeine Zeitung. Il est allé à la rencontre des opposants à la dictature du Corona dans ce land du sud-ouest de l'Allemagne. Alors pourquoi précisément le Bade-Württemberg?
Eh bien parce que c'est dans ce land précisément que se concentre le mouvement Querdenken. Alors Querdenken, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire non-conformiste. Ce sont tous ces gens qui refusent alors le masque, le vaccin ou plus généralement la politique non concertée de restrictions menée par le gouvernement allemand. Et dans ce land de Bade-Württemberg et précisément à Stuttgart, sa capitale, c'est vraiment là que est né ce mouvement. Il y a une longue histoire de non-conformisme dans cette région.
Expliquez-nous cette longue histoire de non-conformisme, Virginie.
Alors, la longue histoire de non-conformisme du Bade-Württemberg, elle remonte en fait au 19e siècle. Donc, c'est là que l'on trouve le fondateur de l'entreprise Bosch, mais qui était aussi un grand, grand partisan des médecines alternatives et précisément de l'homéopathie. Donc, c'est un land qui a été nourri systématiquement d'une pensée de remise en question de la médecine traditionnelle notamment, et une remise en question plus généralement du pouvoir et des faits.
Ces opposants à la dictature du corona, ils ont un profil très varié.
Très, très varié. Donc, le reporter est allé les rencontrer. C'est ce qui est très intéressant. Il les fait parler. Donc, ça va du commerçant à l'ancien ingénieur devenu naturopathe. On nous décrit des rassemblements très familiaux où, bien sûr, évidemment, viennent se greffer aussi les complotistes et nazis qui rallient à peu près toutes les manifestations contre quelque chose. Mais certains de ces gens insistent. Ils ne sont pas contre. Ils sont pour la liberté, pour l'intelligence collective, pour la prévenance. Donc c'est très varié, mais globalement, ils sont très mécontents.
À lire dans Courrier cette semaine également, un article de Unheard qui explique pourquoi les Britanniques adorent détester les Français. La France, ce tendre ennemi et une relation compliquée qui ne date pas d'hier, Virginie.
Oui, alors c'est un article qui est délicieux, je pense qu'il faut bien le dire, parce que le journaliste s'en donne à cœur joie et évidemment dans l'outrance et la mauvaise foi. Et donc il rappelle effectivement que notre relation français-anglais est une relation extrêmement compliquée, qui est façonnée par un complexe d'infériorité qui remonte à l'occupation normande. Et il précise d'ailleurs que aujourd'hui, tous les gens qui ont un nom à consonance normande font partie de la grande bourgeoisie, bien plus que dans les classes inférieures. Il y a aussi ce phénomène de classe qui distingue les Anglais des Français.
C'est une histoire savoureuse qui démarre avec un poulet.
Alors, savoureuse à plus d'un titre, puisque, dit-il, tout part du moment où les Anglais occupaient la France. Un poulet trop cuit qui a été servi donc à Paris, en France, lors du couronnement du roi Henri VI, qui était encore bébé. Et ce poulet trop cuit, même la foule n'en a pas voulu, car les Français, on le sait, aiment la bonne chair, à un point un peu ridicule, souligne le journaliste, qui déroule comme ça toutes les anecdotes, jusqu'à arriver aussi à aujourd'hui. Et il se moque des atermoiements d'Emmanuel Macron et de notre échec face à la pandémie, quand l'Angleterre est en train, elle, de remonter la pente.
Enfin, cette semaine, dans le courrier international, la Sardaigne et ce très beau projet raconté par la Repubblica, la réconciliation des bergers et des vautours qui a permis le retour des rapaces sur l'île méditerranéenne.
Oui, c'est un très très beau projet. En fait, tout est parti du constat que les vautours qui habitent la Sardaigne étaient en voie d'extinction. Il en restait 60 spécimens dans les années 80. Et une association a permis aux bergers de comprendre l'intérêt de ces rapaces et au lieu d'empoisonner les carcasses laissées dans la nature, leur suggère de les laisser à disposition des vautours dans des enclos sécurisés et électrifiés pour que les rapaces reviennent. Et ça marche, ça marche. Ils sont maintenant plus de 270 rapaces à habiter à nouveau dans l'île.
Merci Virginie Le Petit, rédactrice en chef adjointe de Courrier International.
Bonjour madame, bonjour monsieur. Nous allons, grâce à ce disque, essayer de tirer ensemble le maximum de qualité sonore de votre chaîne Haute Fidélité.
Sit back, relax, and close your eyes.
La musique avec Vincent Théval. Bonjour Vincent.
Bonjour Juliette, bonjour à tous.
Direction l'Allemagne aujourd'hui Vincent.
Basée à Leipzig, en Allemagne, l'autrice, compositrice et pianiste June Coco a étudié le jazz à l'université avant d'affiner son style en écumant les clubs et les bars de sa ville. Elle publie un premier album en 2015, The Road, puis continue son chemin jusqu'à Fantasies and Fine Lines, un deuxième essai publié en 2019 en Allemagne, mais qui ne nous arrive qu'aujourd'hui. Et pour l'occasion, June Coco fait coup double avec la parution concomitante de Métamorphose, un recueil de remixes et relectures de ses chansons par d'autres artistes. Une double occasion donc de faire connaissance avec une écriture et une voix très délicates.
I tried to write a letter to you, but it didn't work out. To find some words for a song, but nothing came round. Now I'm sitting here with my mind so blank, just waiting for this night to end, right before dawn.
Avec Letter dans Accent d'Europe aujourd'hui. L'émission était réalisée par Françoise Grelot. Vous retrouvez le podcast de l'émission sur rfi.fr ou sur votre plateforme d'écoute préférée. Bon week-end.